Aujourd'hui, on est en direct de la faculté Victor Ségalin pour l'opération Quartier de Sciences. Quartier de Sciences dont le thème cette année est autour de la chimie. Devant moi, Paul Tréguer, océanographe. Paul, est-ce que vous avez envie de me parler de la chimie de l'océan, par exemple ?
Ah, volontiers, elle est tout à fait fondamentale. On ne peut pas faire de biologie sans faire de chimie. Et ça peut même aider la physique. Alors, l'océan, on a imaginé que c'était la solution à tous les problèmes de la faim dans le monde, par exemple. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'océan est un objet paradoxal. La couche de surface de l'océan, là où est la vie, celle qui est éclairée par la lumière, finalement, a peu de matière nutritive, c'est-à-dire de nitrate, de phosphate, ce qu'on met dans le jardin pour faire pousser l'herbe. Il y a très peu dans la couche de surface de l'océan, ce qui fait que on peut dire que de façon générale, l'océan de surface est peu productif. Alors le paradoxe, c'est que quand on s'enfonce dans l'océan, dans les couches obscures, c'est là que sont les réserves nutritives. Autrement dit, l'océan qui est productif, c'est quand il arrive à faire remonter les réserves nutritives du fond de la mer en surface. Et la nature sait faire ça naturellement. Elle est géniale, la nature. D'abord, les tempêtes d'automne, qui nous effraient parfois, qui dispersent les feuilles. C'est un peu comme le soc de la charrue dans le champ. Et ça fait remonter à la surface les sels nutritifs qui vont donc être utiles pour le printemps. Et puis, il y a des grandes zones productives de l'océan, au large du Maroc, de la Mauritanie, du Pérou, de la Californie, de l'Afrique du Sud. On appelle ça dans le jargon les upwelling, c'est-à-dire les remontées d'eau profondes qui fertilisent la couche de surface. Donc, la chimie, c'est tout ça. Et quand on n'a pas compris la chimie, eh bien, on ne comprend pas la biologie.
Alors, hier soir, je vous ai entendu lors d'une conférence et vous avez dit « un scientifique observe les faits ». Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'océanographe, vous observez comme fait dans l'océan ?
Alors, c'est une démarche qui est fondamentale. C'est, par exemple, de la différence par rapport à la politique qui pose son hypothèse d'abord. Le scientifique, lui, son souci, c'est d'observer et ensuite de faire des hypothèses. Donc, il a une démarche qui est d'observation a priori. Observer les faits, c'est effectivement être incité à comprendre la nature. Et c'est en ce sens que la relation entre l'observation et l'interprétation est tout à fait fondamentale. Et puis il y a une troisième dimension pour le scientifique qui est la modélisation, c'est-à-dire quand il a interprété et qu'il pense qu'il le fait correctement, il est capable de simplifier et donc de prévoir. Alors, par exemple, en chimie, un problème qui est tout à fait crucial pour le 21e siècle, c'est l'acidification de l'océan, comme on dit. Et c'est sur ce sujet que portait la conférence hier soir. Alors, en deux mots, eh bien, le changement climatique est en cours et dû pour une part, pas seulement, mais pour une part au rejet par l'homme de gaz carbonique, le fameux dioxyde de carbone, qui va dans l'atmosphère. Mais quand on observe le rejet de dioxyde de carbone d'une part et son accumulation à travers différentes stations qu'on a dans le monde, on a une différence. Et comme nous dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui nous manque en CO2, en fait, est passé pour une part importante dans l'océan. Donc l'océan accumule le CO2 de l'homme, le CO2 anthropique, pour parler dans le jargon actuel. Et on peut se dire, c'est formidable. Donc l'océan nous régule le climat et nous ralentit ce réchauffement, c'est vrai. Problème est chimique. C'est que le CO2, quand il se dissout dans l'eau, il entre en réaction avec l'eau pour faire de l'acide carbonique. Il va donc modifier le pH de l'océan, puisque l'acide carbonique se dissocie notamment en ion hydrogène. Donc il va acidifier l'océan. Et c'est là que les ennuis commencent sérieusement, parce que toutes les structures de biologie, les coquillages des animaux microscopiques ou des algues microscopiques à base de calcaire, eh bien, ils n'aiment pas les milieux acides. C'est un petit peu comme si on prenait une pincette d'acide qu'on mettait sur un morceau de craie, on voit le morceau de craie qui disparaît. Voilà ce que l'on appelle en fait l'acidification de l'océan, dont l'océan progressivement est en train de devenir acide. Alors on est à un seuil qui n'est pas actuellement dangereux, sauf que dans les zones polaires, notamment de l'Arctique et aussi l'Antarctique, mais d'abord de l'Arctique, les eaux froides ont la capacité de dissoudre les gaz, donc en particulier de dissoudre beaucoup de dioxyde de carbone. C'est donc elles qui sont touchées en premier, et on a pu montrer que le danger est réel pour les algues, les micro-algues calcaires de l'Arctique. En 2016, c'est demain. Donc c'est un problème sérieux qui va progressivement concerner l'ensemble des latitudes, y compris la nôtre ici au niveau de la latitude de Brest dans quelques dizaines d'années.
Alors, dans un des ouvrages que vous avez publié récemment, j'ai senti votre fascination pour les zones polaires. Voilà, vous avez raconté l'histoire des découvertes des pôles. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces zones ?
Alors effectivement, 2011, c'est l'année, enfin en tout cas le centenaire de la conquête du pôle Sud. Eh bien, on peut dire que je suis tombé amoureux de ces zones en 1976 pour la première fois, puisque après avoir passé ma thèse ici à Brest, bon, j'avais acquis une certaine expérience dans les fameuses remontées d'eau dont je parlais tout à l'heure, les eaux côtières, les remontées d'eau côtières. Et j'avais été invité par des collègues à participer à un programme de remontée d'eau profonde dans l'Antarctique. On a la plus intense remontée d'eau profonde pour l'ensemble de l'océan mondial. Et c'est vrai que quand on va là-bas, on est frappé non seulement par l'intérêt de sa chimie, mais aussi par, on peut dire, l'intérêt de l'écosystème et des paysages. Et on peut dire que j'ai attrapé le virus polaire. J'y suis retourné très souvent. J'ai dû faire, je crois, 7 ou 8 campagnes. Et en particulier parce que, progressivement, nous sommes rendus compte que, précisément parce que les zones polaires ont la capacité, les eaux polaires, ont la capacité de capter, de dissoudre le fameux dioxyde de carbone, finalement, c'est une zone, comme on dit, puits de gaz carbonique. Et c'est donc une zone centrale pour comprendre la régulation du climat à la planète Terre. Voilà pourquoi je suis fasciné par les eaux polaires. Naturellement, après, je me suis focalisé sur les récits de mes prédécesseurs, explorateurs scientifiques parfois, d'où effectivement l'ouvrage « Trois marins pour un pôle » que j'ai eu le plaisir de publier. Oui.
Est-ce que, en fait, ce métier de scientifique, c'est pas quelque part un métier d'explorateur, d'aventurier ?
Il y a un peu de ça, parce qu'il faut effectivement être aventurieux dans la mesure où, si on cherche un métier qui paye bien, comme on dit, on a tous appris qu'il faut plutôt aller du côté de la finance. Quoi. Mais je trouve, moi, manipuler des chiffres, en tout cas de façon virtuelle, ça ne me plaît pas du tout. Par contre, être confronté à des questions que la société se pose pour prévoir son évolution, ça, je trouve ça captivant. Et en fait, c'est ce que fait un scientifique. Bien sûr, il est dans son laboratoire. Pour nous, nous sommes aussi en mer. Les laboratoires sont embarqués maintenant. Et il est au cœur, on peut dire, de l'action. Il est au cœur de l'évolution de la société. Et avec un peu de chance, il peut contribuer à expliquer ce qui se passe, par exemple, dans l'affaire du changement de climat. On voit l'ensemble de la communauté des scientifiques, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des géologues, apporter leur contribution, bien sûr des atmosphéristes, apporter leur contribution, et tous ensemble, c'est le côté fascinant aussi, la science pluridisciplinaire que j'ai le plaisir de pratiquer en océanographie, et on peut dire incomparable, parce qu'elle met au contact non seulement des experts dans chacun des domaines, mais nous sommes confrontés directement aux citoyens, aux politiques, aux gens qui organisent la société. Donc on est finalement au cœur de l'évolution du monde.
Donc en fait, c'était peut-être la dernière question que j'avais envie de poser, c'était justement la place du scientifique dans la société et le scientifique en tant que citoyen.
Alors je distinguerais volontiers les deux, parce qu'on a parfois tendance à les confondre. Comme on disait tout à l'heure, par définition, le scientifique est l'homme des faits. Il s'appuie sur les observations, il les interprète, il les modélise pour éventuellement prévoir. Mais il est aussi citoyen et naturellement il peut avoir une opinion. Mais c'est vrai que les médias actuels adorent mettre les scientifiques en opposition. Pour reprendre l'exemple du climat, Et comme si la contradiction n'était pas naturelle aux sciences. Elle l'est naturelle aux sciences. La démarche dialectique est fondamentale pour progresser. Et le scientifique est par définition modeste. Il a à un certain moment une hypothèse qui sent vérifiée par les faits. Et puis, quelque part, à un autre moment, ou dans un autre lieu du monde, un collègue a une hypothèse différente, totalement révolutionnaire. On l'accepte avec modestie et au contraire, on recherche la contradiction. Donc c'est une démarche que nous devons expliquer aux citoyens. Un scientifique, on peut dire, n'est jamais sûr à 100% de ce qu'il affirme. Il pense qu'à un moment donné, ce qu'il avance est effectivement dans le domaine du probable et donc du possible. Mais il a le devoir, on peut le dire, de rechercher en lui-même et ailleurs la contradiction du démarche qu'il développe pour le progrès des sciences. C'est fondamental, pas de progrès sans dialectique.
D'accord, merci. Donc ce matin, on est là à la faculté Victor Ségalin pour cette opération Quartier de Sciences. On entend des petites voix, il y a des enfants qui sont là. Et donc Paul Tréguer, que pensez-vous justement de la vulgarisation scientifique qui est menée aujourd'hui ?
Elle est fondamentale parce que la démarche pour un scientifique naturel est d'expliquer ce qu'il fait. Et expliquer ce qu'il fait, c'est aussi, et peut-être maintenant la priorité, c'est en priorité d'expliquer aux jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir du monde, de les attirer vers les sciences. Il y a différentes sollicitations, on peut dire, qui les en écartent. Et il est clair que ce que nous pouvons faire dans ce sens, nous devons le faire. Alors ceci de différentes façons, bien sûr, chacun à son niveau. Mais il faut reconnaître que des manifestations comme celle-ci vont tout à fait en bon sens. Je pense aussi à des outils dans le domaine des sciences marines, comme Océanopolis, qui a une capacité, je dirais, de dynamiser le message scientifique, de le rendre parlant. Il y a d'autres exemples encore, bien sûr, y compris au niveau Internet. Hein. Mais le scientifique, oui, je pense qu'il doit se concevoir comme vulgarisateur des sciences. Ça fait partie de ses devoirs.
Bon, merci beaucoup.